Faisal Zelama, professeur d'économie et de gestion à l'Université de Saint-Boniface, apportera son point de vue sur l'augmentation récente du salaire minimum à 15,30 $ au Manitoba. Maintenant que le salaire minimum au Manitoba est passé à 15,30 $ à compter du 1er octobre 2023, pouvez-vous nous donner votre analyse d'expert sur la question de savoir si cette augmentation rapide du salaire est un développement positif ou négatif pour l'économie de la province?
C'est une très, très bonne question. C'est une question intéressante qui revient sur un peu la scène du débat public toutes les années, chaque fois qu'on soulève la question de salaire minimum. Alors juste au début, je te précise que le salaire minimum pour certaines provinces, puisqu'on parle du Canada, fait partie du code du travail, donc du droit du travail. Dans d'autres provinces, il fait partie de la politique publique, c'est-à-dire de la décision de budget par une loi ou une décision budgétaire du gouvernement. Donc, et là, je te donne des exemples rapidement, comme par exemple la province de l'Alberta, il est parmi les lois du travail. Donc, il ne les change pas. Et d'ailleurs, depuis 2018, dernier changement, l'Alberta, ils n'ont pas changé leur décision sur le salaire minimum. Dans d'autres provinces, c'est plus flexible. C'est au gouvernement, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre, bien évidemment, les représentants, des fois les syndicats, des rassemblements syndicaux qui réclament l'augmentation du salaire minimum. Puis il y en a comme alternative, par exemple, du groupe des chercheurs aussi, qui, eux, ils réclament l'augmentation du salaire minimum et le gouvernement, dépendamment aussi du budget, dépendamment de la couleur du gouvernement en place. Alors, j'ai voulu cette introduction pour te dire que la question, elle est vraiment très, très délicate et elle revient souvent sur la table de discussion publique ou bien de négociation. Alors, il y en a deux écoles, même sur le plan académique. Il y en a, moi je dirais l'école classique, pour ne pas dire l'ancienne école, qui c'est très facile d'identifier les discours. Par exemple, du président de la Chambre de commerce de Winnipeg, qui a dit, écoutez, l'impact, ça va être négatif. L'augmentation du salaire minimum va alourdir les charges des petites entreprises, surtout. Il fait allusion à des entreprises comme les restaurants, etc., et des entreprises de services. Oui. Donc, pour lui, c'est un adepte de cette approche, entre guillemets, classique, qui dit que toute augmentation de salaire minimum ou toute augmentation de salaire en général, c'est un coût. Donc ici, remarquez bien, il considère que le salaire est un coût. Et donc, ça va avoir des effets et des impacts négatifs sur, bien évidemment, les résultats de l'entreprise et ça va générer des difficultés. Je te ramène juste à l'année dernière parce que l'augmentation de salaire minimum au Manitoba, il a connu plusieurs phases. Hein. Il était dernièrement, il a passé à 15,30 $, mais il était 14,65 $ ou 45. Et la différence de la dernière augmentation, pas celle-là, pas celle du 1er octobre, l'autre augmentation de 65 sous, je crois, eh ben, ce ne sont pas les entreprises qui le payent, c'est le gouvernement qui l'a pris en charge. C'est-à-dire que l'ancien gouvernement, maintenant on peut parler de l'ancien, il engendre la même théorie, le même point de vue que celui qu'il a déclaré le président de la Chambre de Winnipeg il y a deux jours, que le salaire est une dépense et ça alourdit les charges de l'entreprise. Ça peut même donner lieu à l'inflation, augmenter l'inflation. Parce que le danger, c'est toujours le salaire et l'inflation. Alors ça, c'est une école que moi, je le considère comme une école classique. Et que je ne la dis pas, elle est très restrictive. C'est-à-dire, elle est soumise à des hypothèses très restreintes et donc, elle n'explique pas la réalité. La réalité, elle vient d'une autre approche, plus évolutionniste, plus reliée à la réalité et qui n'est pas très, très récente. C'est-à-dire, elle est connue à peu près avec Gary Becker aux États-Unis en 1962, qu'on appelle la théorie du travail ou la théorie du capital humain. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est une démarcation avec l'école classique. Pour lui, le salaire ou l'augmentation de salaire, il faut le voir pas comme dépense, comme l'autre école, mais c'est un investissement. Et moi, j'annonce mes couleurs, je suis un adepte de cette approche-là qui considère l'augmentation salariale et il faut le voir du côté comme un investissement dans les ressources humaines. Et là, je vais te faire un peu une liste rapide comment on les considère investissement. Alors, laisse-moi te préciser, parce que tu n'es pas économiste, quand on dit une dépense, la dépense, c'est-à-dire elle ne génère rien. On dépense, on consomme, c'est une consommation finale. J'ai dépensé dans le restaurant un plat, où j'ai dépensé 100 dollars. Dépense. Donc, c'est la destruction. La dépense, ça veut dire elle est détruite. Donc, elle ne génère rien. Peut-être le bien-être ou la joie, etc. Par contre, l'investissement, elle génère un retour, un rendement. J'ai 100 dollars que je consomme au restaurant, ça c'est une dépense, donc elle est finie. Par contre, si j'ai le même montant, 100 dollars, je l'investis, je le mets dans 50 d'épargne ou je fais n'importe quoi comme investissement, il va me générer un retour sur investissement. Return on investment, le retour sur investissement. Et donc, je considère, selon cette approche du capital humain, remarquez bien, il parle que les humains forment un capital qui génère un rendement. Donc, je considère que lorsqu'on augmente le salaire minimum, en apparence, et les apparences, entre parenthèses, sont dans la plupart du temps trompeuses, en apparence, ça va augmenter le charge des entreprises, mais il ne faut pas qu'on s'arrête à ce niveau-là. Ça, c'est vrai, mais c'est à très court terme. Juste à moyen terme, il va générer tout d'abord une main-d'œuvre qui travaille au salaire minimum, qui va être peut-être satisfaisante. Elle ne va pas chercher un deuxième emploi pour subvenir à leurs besoins. Si le salaire augmente, donc fini, là je trouve un emploi. Je ne suis pas obligé, je ne suis pas pauvre, on veut sortir. On veut le faire sortir de seuil de pauvreté. Et 15 dollars, je te dis tout de suite, ou 15-30, c'est très proche du seuil de pauvreté. C'est-à-dire même si la personne il travaille à plein temps à 15 dollars, 40 heures par semaine, fois 50 semaines par année, ça donne à peu près 30 000 dollars par année. Et ça n'est pas très, très loin du seuil de pauvreté au Canada, qui est aux alentours à peu près de 27-28 000 dollars. Donc, lorsqu'on augmente le salaire, au moins on garantit que la personne peut subvenir à ses besoins nécessaires et peut-être il ne va pas être épuisé professionnellement. C'est-à-dire qu'il a un travail, il n'a pas à chercher deux emplois pour payer ses factures. Donc, nous allons être dans un contexte où l'employé est en santé. Il n'est pas épuisé, ni physiquement, ni mentalement. Donc, l'employé qui est en santé, il est plus productif. Il fait moins d'erreurs, moins de gaspillage de ressources. Imaginez, par exemple, que vous allez dans un restaurant et le serveur ou la serveuse, elle venait de quitter un autre emploi. Donc, il va le trouver un peu... Il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a pas le sourire, il n'y a pas le bon service. On peut généraliser tout ça sur d'autres professions, mais restant parce que le secteur qui consomme ou qui emploie plus les gens au salaire minimum, c'est le service, la restauration. Donc, l'épuisement, la santé, la joie. La personne, il est capable de payer ses factures à temps. Donc, il est joyeux. Et lorsqu'il est joyeux, c'est-à-dire il est satisfait, là je parle un peu de psychologie de travail, et donc sa motivation pour aller au travail va être plus grande, il est plus motivé parce que son salaire ou son revenu couvre ses dépenses et la motivation, c'est l'engagement, c'est la production et c'est plus de responsabilité. Alors qui va générer tous ces retours? Qu'on ne peut pas le valoriser en dollars au début, mais on peut, et on a, moi-même, j'ai travaillé sur ce sujet, on peut le mesurer, le retour sur investissement. Donc, plus, il y a d'autres effets que s'il est motivé, s'il est content, s'il est satisfait, s'il est en santé, il va rester chez l'employé, n'est-ce pas?
Oui.
Il va rester chez l'employé. Et donc, l'employeur, lorsqu'il garde son employé, il va éviter le recours pour recruter un autre qui doit apprendre, qui doit connaître comment réfléchir, quelle est la culture, quelle est l'atmosphère du travail. Donc, lorsqu'il y a un nouveau recruté, il ne peut jamais être productif dès le premier jour. Ça prend un temps pour qu'il intègre un peu l'atmosphère. Alors, l'employeur qui accepte l'augmentation du salaire minimum, maintenant qu'il accepte ou n'accepte pas, parce que c'est une loi, n'est-ce pas? C'est la loi du travail qui l'oblige. Mais l'employé qui accepte la loi et bonifie, moi je cherche un peu la bonification du salaire minimum, certainement qu'il va récolter le retour sur investissement parce qu'il a investi dans son employé. Au lieu de payer 15,30 $, il lui donne 2 $ de plus. Parce que quelles sont les professions qui sont frappées par cette médiocrité, ces emplois précaires? Tout d'abord, ce sont les étudiants. Les étudiants qui ont l'âge de travail, 15 ans ou 16 ans de plus, pour vivre, pour subvenir à leurs besoins, ils sont obligés de chercher un travail. Donc, là, l'objectif d'un article ou d'un reportage ou peu importe sur le salaire minimum, je pense qu'il est temps que tous les efforts universitaires, chercheurs, spécialistes, mais aussi journalistes et les gens du média, que ce soit médias sociaux ou médias ordinaires, il faut qu'on valorise et on fait la promotion de l'idée que l'ère et l'époque de voir que le salaire minimum ou l'augmentation des salariés d'une manière générale est un coût que l'entreprise supporte, il est temps d'aller voir une autre perspective, une autre approche, c'est l'approche gagnante. Là, je t'ai énuméré un peu les bienfaits sur l'employé qui va être en santé, qui va être content, qui ne va pas faire du vandalisme, et puis même c'est lié au taux de divorce, etc. Et le retour pour les employeurs qui vont avoir moins de charges pour recruter de nouveau, moins d'accidents de travail, un bon service pour les clients, etc. Mais aussi, il y aura un retour pour toute la société. Donc, les bénéficiaires d'une augmentation de salaire minimum, si on veut aller dans un sens unique, on va suivre ce qu'il a déclaré, le président de la Chambre de commerce, Winnipeg, lui qui a dit c'est un coup, et il a dit que le bonheur des employés fait le malheur des employeurs qui vont payer. Moi, je réponds à ce qu'il a dit par une nouvelle approche. Il est temps que tout le monde, tous les acteurs, employés, employeurs aussi, syndicats, chambres de commerce, tous les intervenants, gouvernement, doivent investir dans les ressources humaines par le développement des compétences, l'amélioration des conditions de vie, l'apaisement de l'atmosphère du travail et surtout le rattrapage en termes de perte de salaire minimum. Et juste, je termine, salaire minimum, pour certaines études, on estime que le salaire minimum pour subvenir au minimum de subsistance doit aller à près ou un peu plus de 20 $. Je parle du Manitoba, bien évidemment. Alors, c'est ça qu'il faut défendre et je pense que notre approche et nos arguments sont marketables, ils sont vendables. Voilà.
Alors, nous vous remercions infiniment pour votre contribution et vos réponses pertinentes, Monsieur Zelama.
Me fait toujours plaisir.
Merci infiniment.
Bon après-midi.
À vous aussi. Cet entretien a été rendu possible grâce au programme IGEAL, Initiative de journalisme local.